l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence dans le Lauragais 97.9.
Soyez les bienvenus, Présence Midi en direct jusqu'à midi. Nous sommes ravis de vous accueillir et de vous retrouver durant votre pause déjeuner. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Dans un instant, c'est l'archevêque d'Auch qui sera à notre micro.
Monseigneur Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch, qui va nous dire sa réaction, son émoi après la tragédie de la mort de la petite Liana à Florence. Il sera au micro dans quelques instants de Philippe Subercaz et vous entendrez comment les communautés chrétiennes du Gers ont uni leurs prières pour la famille de cette petite.
Nous prendrons ensuite un peu d'altitude, nous irons à plus de 3000 mètres d'altitude au sommet de la Fâche.
Oui, à 3006 mètres d'altitude exactement, au sommet de la Fâche. J'aurai dans quelques instants l'abbé Antoine Mérillon, qui est prêtre accompagnateur de ce rendez-vous montagnard qui existe depuis 84 ans. Et si vous alliez, cher Gilles, en haut du sommet de la Fâche les 4 et 5 août prochains, eh bien, je sens que vous hésitez. L'abbé Antoine Mérillon, qui fait chaque année ce pèlerinage, eh bien, va vous donner de très bonnes raisons de le suivre.
Ah bah écoutez, on va suivre ça à midi et demi, il sera votre invité.
Exactement, et vous apprendrez que comme au sommet du pic de l'Aneto, eh bien, la Fâche aussi a sa statue de la Vierge Marie qui disparaît. Voilà. Alors, quelles solutions ont-ils trouvées? Eh bien, vous le saurez en écoutant.
Ça donne
Mérillon.
Envie de rester. Bravo pour ce teaser. Nous irons également du côté de Bayonne pour évoquer l'agenda du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron, l'agenda à Berne. Et pour cela, je serai en ligne avec Nathalie Chambon, qui est la responsable de la communication pour ce diocèse. Voilà pour les grandes lignes de cette émission, Anne-Rose.
On voyage un petit peu dans cette émission ce midi.
Exactement. Pour le moment, c'est l'actualité qui est avec nous.
Évidemment.
Et avec Sacha Boudet-Pouplier, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve pour les titres qui seront développés tout à l'heure à 12h30.
Les trains Lio à 1 euro circuleront exceptionnellement ce week-end en Occitanie à l'occasion des 90 ans du Front Populaire et d'une opération spéciale organisée à Gruissant. À Toulouse, une trentaine de lycéens participent à Déclic Spatial, un programme d'immersion destiné à faire découvrir les métiers du secteur spatial. À Agen, l'opposition critique la nouvelle formule de stationnement gratuit proposée par la municipalité, jugée comme trop limite. Dans le Tarn-et-Garonne, les habitants d'un village rural dénoncent 3 jours consécutifs sans connexion internet et demandent une amélioration du réseau. En Aveyron, les bénévoles du train touristique du Barouergue poursuivent la restauration et l'entretien du matériel historique avant la saison estivale. Et puis pour finir, à Toulouse, l'Ordre de Malte inaugurera demain sa nouvelle antenne médicale mobile, un dispositif solidaire destiné à apporter des soins aux personnes les plus fragiles et les plus éloignées du système de santé.
Merci Sacha Boudet-Pouplier, voilà, qui est avec nous, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. On le retrouve à 12h30 pour développer ses titres dans le journal.
Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
C'est en direction du Gers que nous allons nous rendre maintenant. Bonjour Monseigneur Bertrand Lacombe.
Bonjour.
Vous êtes l'archevêque du diocèse d'Auch et on vous appelle pour malheureusement une triste nouvelle qui est un drame qui est survenu dans votre diocèse, c'est le décès de cette petite Liana.
Ben oui, je dirais nous sommes comme tout le monde, vraiment accablés par ce qui s'est passé, par tous ces jours où nous avons été dans l'attente et puis après dans les nouvelles qui nous ont été données. Et voilà, nous ressentons la même chose que chacun, le cœur lourd et en question aussi sur ce qu'il y a lieu de faire.
Je pense que toute la communauté, bien sûr, chrétienne de votre diocèse, les fidèles ont dû peut-être aussi prier, ont dû faire des, sont peut-être aussi participés aux recherches, parce qu'à un moment, tout, une grande partie du Gers ont recherché cette petite, pendant presque une semaine.
Ben oui, on a fait ce que nous pouvions faire. La famille n'est pas une famille particulièrement catholique, mais comme catholique, c'est vraiment important de s'associer à ces moments-là, de d'œuvrer soi-même ou en tout cas de montrer une proximité avec ceux qui sont en responsabilité dans ces moments-là.
Est-ce que on est obligé à un moment dans les catéchèses, dans les homélies, de reprendre ce fait divers et dire malheureusement que l'homme est capable du meilleur, mais également du pire?
Ben, ça a été quand même une manière dès le début de porter dans la prière. Liana, on a été au courant très très rapidement, et donc c'était, je dirais, très spontanément, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les jeunes, dans l'enseignement catholique, dans les groupes d'église, il y avait toujours une intention de prière qui était là, pour demander de retrouver Liana, et puis voilà, pour demander au Seigneur aussi d'être proche des parents, des familles qui étaient touchées. C'est une manière de vivre, je dirais, ce qui arrive avec notre foi chrétienne.
Est-ce que des paroissiens ou des personnes sont venues spontanément vers l'église, vers un prêtre pour avoir besoin de prier, mais aussi de parler, de sortir un petit peu ce qu'ils ont dans le cœur, et peut-être demander aussi au Seigneur pourquoi il se passe ce genre de choses?
Ben, je crois qu'on n'en est pas encore au pourquoi. C'est vrai, oui, que ça peut venir, mais c'est plutôt la sidération. Nous avons essayé d'être proches de la famille elle-même ou de relations proches. Et puis il y a eu à l'église de Florence, il y a toujours un oratoire qui a été fait, où il y a des personnes qui sont venues déposer une lumière, qui sont venues se recueillir quelques instants. Et puis ça a été aussi une invitation dans les groupes où nous étions, de laisser la parole s'exprimer, de laisser les personnes dire ce qu'il en est. Et chaque fois qu'il y avait une rencontre, encore une fois, quel que soit l'âge, prendre le temps d'en parler, prendre le temps de s'exprimer, et essayer de voir comment on peut vivre ça, comment on peut être présent dans ces moments-là.
Est-ce que, bon, ça s'est passé pas forcément dans un établissement scolaire, mais elle était scolarisée dans une école, est-ce que on fait un peu plus attention, est-ce qu'on prête l'oreille peut-être aujourd'hui un petit peu plus à ce que peuvent raconter un enfant?
Ben, je crois que vraiment c'est un des enjeux très forts une fois qu'on a passé ce temps de la libération, oui, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et je crois que c'est vrai qu'une des questions, c'est la considération de la parole des enfants, de la parole des jeunes, et particulièrement de la parole des personnes victimes. Comment on la considère? Alors, ce n'est pas notre métier à nous. Oui. Nous-mêmes, nous pouvons faire œuvre de prévention, et c'est important de développer cette prévention partout où nous sommes, que ce soit dans l'assemblée catholique, que ce soit dans les groupes d'église, dans tout ce que nous vivons. Mais je crois que pour la société, c'est vraiment cette attention qui doit être donnée à la parole de l'enfant, comment la recueillir, comment s'appuyer et comment réagir tout de suite après par rapport à ce qui a été vécu. C'est pas la seule question, mais c'est vraiment une manière de dire entendons vraiment le cri de ces enfants. Les statistiques sont terribles, hein, on est dans des chiffres vraiment vertigineux. Donc comment on considère la parole de l'enfant, comment on en tient compte. Et là, on se dit ensuite, c'est vraiment toute une question de société qui est posée là, c'est-à-dire comment dans les différents partenaires de l'éducation des enfants et des jeunes, donc l'école, bien sûr, que vous évoquiez, mais aussi les différents lieux où sont les enfants et les jeunes, la famille, comment quand une dimension judiciaire, et comment cette dimension judiciaire est vécue, comment les instructions sont faites. Là aussi, c'est pas notre métier, mais on dit c'est vraiment quelque chose qui compte, et ça veut dire plus de moyens pour la justice, mais plus largement de dire comment on est partenaire de l'éducation des enfants et des jeunes, et comment on a notre place pour être acteur de prévention. Je crois que c'est vraiment cette première étape que l'on peut faire, de dire comment on peut prendre sa part dans la prévention. Non pas, il y a des choses qu'il faut pas faire, on n'est pas là pour enquêter, on n'est pas là pour poser des questions, mais il y a des réactions qu'il faut avoir assez rapidement vis-à-vis d'un certain nombre de responsables. Et ça, c'est important de le savoir, pour savoir comment accompagner quand on se trouve dans des situations difficiles que l'on peut rencontrer.
Oui, je comprends. Il y a eu plusieurs étapes. Bien sûr, au début, c'est un fait divers. Une petite fille ne rentre pas chez elle. Et puis ensuite, il y a l'arrestation d'un suspect. Et puis ensuite, la recherche de cette petite fille dont beaucoup de Gersois sont partis à sa recherche. Et puis, il y a la découverte du corps. Et puis, il y a cette colère qui naît partout en France, dans votre diocèse particulièrement, bien sûr, mais partout. Comment on accompagne lorsqu'on est évêque? Comment on accompagne ça? Comment on le vit, ça, personnellement?
On le vit, nous, d'abord, personnellement, la sidération et par l'horreur de l'événement. C'est vrai aussi qu'on peut avoir une certaine expérience, n'est pas bien le terme, mais d'avoir accompagné quand même un certain nombre de personnes. Et donc, je crois que la première attitude, c'est l'écoute, mais c'est aussi de se garder de trouver tel ou tel bouc émissaire, parce que dans des événements comme celui-là, on sent bien que c'est un ensemble d'acteurs qui va œuvrer et qui va arriver à un résultat. Donc c'est plutôt un encouragement d'abord de ceux qui sont en responsabilité dans le domaine de la justice, dans le domaine de la sécurité civile, dans le domaine de l'État, dans le domaine de l'éducation nationale. Donc il y a vraiment à montrer sa proximité, à envoyer tel ou tel témoignage à des personnes que l'on connaît. Et puis après, essayer de voir comment on peut faire. La première réaction, c'est le déni. C'est ce qui, malheureusement, a duré beaucoup trop longtemps dans notre société. Ensuite, on peut avoir tendance à reporter la responsabilité sur tel ou tel autre. Là, c'est pas notre mission de faire cela. La justice fera ce qu'elle doit faire. Mais on sent aussi qu'il y a une dimension politique, comme dans toutes les grandes questions qui ont été portées par notre société. Et là, il y a un nouvel engagement, une nouvelle manière d'être dans les partenariats d'éducation qu'il nous faut prendre davantage en compte et œuvrer davantage. Et ça, je crois que c'est des choses qui se font au niveau de tous les acteurs, que ce soit au niveau local pour un établissement, pour une commune, pour un département, mais bien sûr ça devra se faire aussi au niveau de l'État.
Au niveau de l'État. Vous avez bien raison de le rappeler, Monseigneur. Vous l'avez dit, là, il y a eu le temps de la sidération et le après. On est dans un diocèse qui est assez rural et on a du mal, on avait du mal, peut-être, c'est peut-être qu'il y a aussi cet élan et cet écho dans toute la France que ça peut arriver dans un petit village.
C'est vrai que j'aime bien dire en tout cas d'un point de vue ecclésial, le diocèse d'Auch, c'est un diocèse de proximité, mais je crois que c'est vrai pour tout le département. On essaye de vivre la proximité, et c'est vrai que dans ces relations de proximité que nous avons, on pensait pas que ce genre de choses pouvait arriver, et là c'est un voile qui est levé sur cette situation très particulière, dont dans l'horreur qu'elle représente bien, on espère qu'elle est unique. Mais comme je le disais, les chiffres vertigineux que nous avons nous laissent penser que il y a plus de choses et donc il faut pouvoir prendre en charge davantage les choses. Donc je dirais, quand on est d'église, c'est vraiment important d'être présent, d'accompagner les personnes dans les différentes étapes que nous disions, mais c'est aussi de garder l'espérance et d'œuvrer pour que la famille, les relations amicales proches demeurent ce sanctuaire sûr. Et donc, je crois qu'il faut vraiment redire notre confiance dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans les relations scolaires, extrascolaires, enfin, de tous les lieux où sont l'enfant, mais dans une prise en compte plus large, plus rapide, plus réactive, et ça c'est la question de société, mais aussi pour nous chrétiens de dire, on croit que la famille, c'est le sanctuaire dans lequel l'enfant, le jeune, peut grandir, peut acquérir cette liberté, et peut faire les choix qui seront les siens. On a besoin d'une famille, on a besoin d'amis proches, on a besoin de l'école, maintenant qu'est davantage identifié le problème, ça sera vraiment d'œuvrer aussi pour que ce sanctuaire où nous sommes aimés d'un amour chaste, eh ben, puisse vraiment assurer ce rôle et cette mission d'être un lieu où l'enfant et le jeune sont aimés, ces lieux où l'on croit dans les enfants et dans les jeunes, et on leur permet de faire leur choix et d'accéder à l'âge adulte.
On peut s'apercevoir malheureusement qu'à travers ce drame, Monseigneur, il y a eu une unité qui est née. Des gens se sont mis en marche pour rechercher cette petite et soutenir cette famille. Et c'est tout un diocèse qui s'est mobilisé.
Alors ça, c'est un aspect important. Il y a des gens qui ont agi, et c'est sûr que quand on faisait ce signe d'encouragement à telle ou telle personne que l'on connaît, dont on sait qu'elle est impliquée dans cette affaire, on se sent aussi participant. C'est cette communion diffuse dans la sidération, communion diffuse dans l'horreur, mais qui est aussi une communion dans l'espérance. Oui. Je crois que la marche blanche qui a eu dimanche, avec vraiment de très nombreux participants par rapport à la population de Florence, c'est une manière de dire on croit quand même en l'humanité. On croit que la vie ne se limite pas à cela, même si on est complètement accablé par ce qu'on vit. Donc c'est vrai que c'est cette je disais une des réactions, c'est de dire d'un point de vue général, comment on peut davantage rentrer dans la prévention et davantage prendre en compte et en considération la parole de l'enfant, là plus en lien avec la justice. Mais il y a aussi ces passages que nous sommes appelés à faire en disant communion diffuse dans l'accablement et dans l'horreur, comment c'est aussi une communion dans l'espérance et dans une manière de continuer à s'impliquer dans un partenariat de l'éducation et de la croissance des enfants et des jeunes.
Le mot espérance est revenu plusieurs fois dans votre entretien, et il en faut bien sûr de l'espérance, parce que pour tout le monde, la vie continue.
Oui, et puis l'espérance est là, il faut l'avoir. C'est ça qui... il faut arriver à voir ce qui est bon de faire après, je dirais, le voile levé sur un événement aussi sordide. Ça, c'est important. Mais important de voir aussi que notre humanité est faite pour le bien, elle est faite pour le grand, elle est faite par la croissance, et on en a vraiment beaucoup de signes. Et donc, je dirais qu'on est convoqué. On est convoqué à voir ces signes-là, et quand on les voit, à se remettre en route pour le service des enfants et des jeunes.
Un grand merci à vous. C'est pas évident de parler sur ce cas précis, sur ce drame qui s'est déroulé donc à Florence, dans votre diocèse. Un grand merci à vous pour ces mots, Monseigneur Bertrand Lacombe. Vous êtes l'archevêque du diocèse d'Auch. Effectivement, l'archevêque de ce diocèse qui a été malheureusement mis à la une à travers ce drame.
Oui, mais merci à vous, Philippe, pour l'entretien. Voilà, la première attitude, hein, évidemment, c'est l'écoute et le silence. Mais il y a un moment aussi, il faut pouvoir donner une parole qui a un sens dans l'humanité, et puis une parole pour nous chrétiens qui a un sens aussi dans notre foi. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Et merci à Philippe Cybercas, donc, qui a réalisé cet entretien.
Présence à Millau. 106.5.
La suite de Présence Midi dans 10 minutes, le journal régional avec Sacha Boudet-Poplier. Dans un instant, direction Bayonne pour évoquer l'agenda béarnais du diocèse de Bayonne-Lescarré-Oloron. Pour cela, je serai en duplex avec la responsable de la communication, c'est Nathalie Chambon.
Laudetur Jesus Christus.
Chaque jour, à 8h30, 13h et 18h, Radio Présence vous propose un tour complet de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican.
À Prague, pour Radio Vatican, Guillaume Normand.
Bernard, Delphine Arbelier.
Pierre Benazet, Bruxelles, pour Radio Vatican.
Moscou, Jean-Didier Revoin.
New York, Loïc Louré, Radio Vatican.
Sur Radio Présence, trois rendez-vous avec Radio Vatican à 8h30, 13h et 18h.
Bonjour Nathalie Chambon.
Bonjour Gilles.
Avec vous, on va détailler l'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. Et on part pour débuter à Salis de Berne avec cette formation sur le sacrement de la réconciliation et de la pénitence.
Tout à fait. Donc elle est proposée ce samedi 13 juin par le service diocésain de la pastorale liturgique et sacramentelle. C'est une journée donc de 9h30 à 16h avec un temps de bien sûr de prière. C'est le père Bétia, le chancelier du diocèse, qui fera un petit historique et de la présentation de ce sacrement. Ensuite, il y aura des témoignages. C'est mieux de s'inscrire. Toutes les informations sur le site internet diocèse64.org. Et c'est donc dans les salles paroissiales de Saint-Vincent à Salis de Béarn.
Poursuivons avec ce dimanche 14 juin, cette marche paroissiale avec Marie. Ça va se passer à Arzac.
C'est ça, c'est donc près du lac, hein, donc jusqu'à l'église Saint-Pierre. C'est une petite marche de 700 mètres qui est ouverte et accessible à tous. On partira de la statue donc de la Vierge Marie et donc c'est un temps aussi convivial. La messe sera célébrée à 11h. Ensuite, on partagera un petit temps d'apéritif. L'idée, c'est vraiment de remettre aussi un petit peu ce temps, ce petit pèlerinage avec la Sainte Vierge au cœur de notre été.
Allez, on poursuit cet agenda avec un peu de musique maintenant, de la musique à Morlas avec la chorale Araya qui donnera un concert ce dimanche à 16h. Hein. 25 musiciens et 25 choristes seront là.
Oui, tout à fait. Donc c'est à l'église Sainte-Foy de Morlas. Et c'est vraiment ce que nous proposent ces 25 troubadours. C'est vraiment de nous embarquer, si je peux reprendre leurs mots, vraiment pour un voyage tant musical qu'émotionnel. Et donc les billets sont en vente sur l'office de tourisme de Morlas et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Hein, c'est une troupe polyphonique volcacitrante et ruraleuse comme elle se décrit elle-même. Je pense que vous passerez un très bon moment. C'est à 16h.
Voilà, 12€ l'entrée. On reste dans la musique, direction la Vallée d'Ossau avec à Rudy ce concert pour la paix, la liberté. C'est le cœur aimé. Et là, ce sont pas moins de 35 choristes hein, qui seront dans l'église pour chanter les notes du monde.
Tout à fait. Donc, il y a un premier concert qui avait eu lieu en juin. Et là, c'est à Arroudi, à l'église Saint-Germain, ce dimanche 14 juin à 17h. C'est vraiment un concert autour des notes du monde, avec des chorales qui vont chanter dans plusieurs langues, avec des chants africains notamment. Et c'est vraiment dans un esprit de pouvoir demander au monde un peu plus de paix et de liberté. C'est également gratuit là pour les moins de 16 ans. Et sinon, 12€. Donc, c'est à 17h ce dimanche à Arroudi.
Voilà, concert pour la paix et la liberté. On poursuit, on revient à Pau avec la fin du cycle foi et culture. Et pour terminer, le cycle s'achève avec une après-midi musique et spiritualité.
Tout à fait, donc de 16 à 18 heures, hein, c'est à l'église Sainte-Bernadette à Pau. Vraiment un temps de tous ensemble, cet après-midi musical, mais spirituel également. Il y aura des concerts de violoncellistes, pianistes, une danseuse. Il y aura des textes méditatifs qui pourront être lus, qui seront lus même. Et puis, on se retrouvera à la fin autour d'un verre de l'amitié. C'est de 16h à 18h à l'église Sainte-Bernadette de Pau.
On poursuit cet agenda avec cette prière œcuménique qui est itinérante et qui se déplace tous les mois d'église en église. La prochaine rencontre, ça sera pour la fête de la musique dimanche 21 juillet et c'est au temple protestant.
Oui, dimanche 21 juin. Auparavant, il y aura une rencontre le mardi 16 juin à l'église protestante réformée à Pau. Donc, ce sera le dernier temps de cette année. Donc, toujours le même schéma. À 19h, on se retrouve pour la répétition des chants, puis un temps de prière à 19h30, conclu par un repas fraternel partagé. Et oui, notez d'ores et déjà qu'au temple, il y aura un événement pour la fête de la musique le 21 juin.
L'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, organise la 20e nuit des veilleurs. C'est mardi 16 juin.
Oui, alors c'est pas tout à fait une nuit puisque c'est de 19h à 20h30. C'est donc une occasion de prier, hein, à l'occasion de la journée internationale organisée par les Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture. Et cette soirée de prière aura lieu à la maison paroissiale de l'Église réformée unie de France à Pau. Soirée prière et puis pique-nique fraternel partagé à l'issue.
Voilà, mardi 16 juin, vous l'avez dit, à partir donc de 19h à Pau. Voilà pour une partie de l'agenda béarnais du diocèse de Bayonne-Lescarre et Lauron, diocèse64.org. Le site internet du diocèse vous permet de retrouver l'ensemble des informations que nous venons de communiquer. N'hésitez pas également à vous informer plus largement sur l'actualité de votre diocèse. Et moi, il me reste qu'à vous remercier, Nathalie Chambon. Je rappelle que vous êtes la responsable de la communication pour ce diocèse. Très belle fin de semaine à Bayonne et à très vite.
À très vite, Gilles. Au revoir.
Radio Présence à Pau. 96.
La suite de Présence Midi dans quelques instants. On va prendre vraiment de l'altitude. Nous allons aller à plus de 3000 mètres d'altitude au sommet de la Fâche et on va parler avec Anne-Rose Jankovic et son invité du pèlerinage de la Fâche qui va avoir lieu donc dans le département des Hautes-Pyrénées au mois d'août prochain. Pour le moment, quasiment 12h30 sur nos pendules. C'est le moment de faire un point sur l'actualité régionale avec Sacha Boudet-Pouplier qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à tous. À la une aujourd'hui, la région Occitanie modifie exceptionnellement son calendrier des trains à 1 euro à l'occasion des 90 ans du Front Populaire et de l'opération Les Congés Payés des Vacances pour Tous, organisée à Gruissan. Le prochain week-end à tarif réduit se tiendra le 13 et 14 juin prochain, soit ce week-end. Les voyageurs pourront circuler pour 1 euro sur l'ensemble des lignes liées de la région jusqu'à Agen, Pau, Brive ou encore Avignon. Initiative qui vise à favoriser l'accès aux loisirs et à la mobilité pour tous. À Toulouse, une trentaine de lycéens participent à la première édition de Déclic Spatial. Ce programme porté par la Fondation de l'Espace transforme le traditionnel stage de seconde en immersion au sein de l'écosystème spatial. Jusqu'au 26 juin, les élèves découvrent plusieurs entreprises, laboratoires et universités afin de mieux comprendre les métiers du secteur. Une attention particulière est portée aux jeunes issus des quartiers privés et des territoires ruraux. À Agen, le stationnement continue de faire débat. L'opposition municipale critique la nouvelle formule de gratuité annoncée par la mairie. Désormais, 2 heures de stationnement seront offertes uniquement en zone orange, et ce, 2 jours par semaine. Pour les élus d'opposition, cette mesure reste insuffisante pour soutenir le commerce du centre-ville et pour répondre aux attentes des habitants. Dans le Tarn-et-Garonne, les habitants du village de Saint-Vincent-l'Espinasse ont exprimé leur exaspération, pardon, après avoir été privé d'Internet pendant près de 3 jours. Une coupure qui a perturbé le quotidien des habitants, des entreprises, mais aussi du service public. Plusieurs riverains dénoncent des pannes de plus en plus fréquentes dans les territoires ruraux et réclament plusieurs améliorations de réseau. Retour en Aveyron maintenant, où le patrimoine ferroviaire continue de mobiliser les bénévoles. À Saint-Christophe-Vallon, l'association du train touristique du Basse-Rouergue poursuit ses travaux de restauration. Entre manutention de sacs de farine, entretien du matériel ancien et préparation des circulations estivales, les passionnés redoublent d'efforts afin de faire vivre ce patrimoine local et d'accueillir les visiteurs cet été. Et puis enfin, pour finir, à Toulouse, l'Ordre de Malte France inaugurera vendredi sa nouvelle antenne médicale mobile. Installée depuis décembre dernier, cette structure composée exclusivement de bénévoles, à savoir des médecins, des infirmiers et du personnel soignant, intervient un jeudi sur deux auprès des personnes sans domicile ou éloignées du système de santé. Un premier bilan de cette action sera présenté lors de l'inauguration au couvent des Carmes demain.
Merci à Sacha Boudet-Poupillet, voilà, qui est étudiant enceinte dans l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info dans une demi-heure à 13h avec toute l'actualité nationale et internationale. Pour le moment, direction le département des Hautes-Pyrénées. On va vraiment prendre de l'altitude. On va aller à plus de 3000 mètres d'altitude au sommet de la Fâche avec Anne-Rose Jankovic et son invité.
Radio Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
Bonjour Abbé-Antoine Mérillon.
Bonjour Anne-Rose.
J'ai la joie de venir vous rencontrer aujourd'hui à Bagnères-de-Bigorre pour que vous nous parliez d'un pèlerinage que vous aimez beaucoup, pour cause vous le faites chaque année. C'est le pèlerinage de la Fâche qui a lieu chaque année les 4 et 5 août. Comme tous les ans, cette année, vous n'y échapperez pas, vous qui en êtes le prêtre accompagnateur. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter ce pèlerinage, puis peut-être ce sommet de la Fâche qui culmine autour des 3000, je crois, hein.
3006. Et donc la Fâche, c'est en 1941 un groupe d'amis d'étudiants lourdais qui faisait la Fâche en octobre donc de 1941. Il y avait de la neige et une des amies a glissé dans la dernière montée et donc elle devait se tuer, j'allais dire, et grâce à Dieu, grâce à un Deus ex machina, la dragonne de son piolet, elle a été retenue et elle a pu être sauvée par un de ses camarades qui était Vincent Petit, qui fut diacre bien plus tard dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes et il fonctionnait au sanctuaire, Vincent Petit. Et donc avec les amis, ils sont revenus l'année suivante pour rendre grâce. Mmh. Et puis la mayonnaise a pris et nous en sommes au 84e pèlerinage ou rassemblement ou action de grâce, donc après cet incident.
Alors une des particularités, c'est que c'est un rassemblement franco espagnol. Arrivé voilà. En haut de la Fâche, il y a des Français et des Espagnols qui se retrouvent.
Voilà, et même avant, c'est une année, je ne sais pas la date exacte de l'année, mais sans doute dans les années 60, ils étaient en train de prier là-haut, nos amis lourdais, et puis après ça a gonflé, et des Espagnols sont arrivés, cathos, et ils disent « pourquoi pas nous ?» Et donc, depuis, c'est toujours franco-espagnol. Et maintenant, il y a presque plus d'Espagnols que de Français. Humblement, je cherche désespérément un prêtre pour me remplacer, en tout cas pour maintenir l'esprit et maintenir le pèlerinage. Les Espagnols en ont un jeune, là, qui a la trentaine et qui est très bien, qui arrive tous les ans avec des amis et tout, et tout, et tout. Et moi, je n'ai pas encore trouvé de successeur, ou en tout cas un prêtre qui est bigourdant, ou au moins du coin.
C'est-à-dire que comme vous êtes encore en forme et que vous le faites avec plaisir, bon...
Non, je voudrais bien passer la main, hein, parce qu'on ne sait jamais, hein. Pour l'instant, ça marche, mais je ne sais pas si cette année, on pourra encore arriver au sommet. Au col, sans doute, mais au sommet, j'espère. Mais après, nous verrons.
Alors justement, comment ça se passe ce pèlerinage? Puisqu'on a dit que c'était les 4 et 5 août, ça, ce sont tous les ans, ce sont les mêmes dates. On commence le 4, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où marche-t-on? Et qu'est-ce qui nous attend?
Alors, pourquoi le 4-5 août? Parce que le 5 août, c'est Notre-Dame-des-Neiges. Et donc, on se retrouve le 5 août. Alors, autrefois, les courageux, ils faisaient ça dans la journée. Mais quand même, déjà, avec les amis et Vincent Petit, tous les organisateurs, les fondateurs, donc on arrivait le 4 août au soir, nos amis espagnols, nous français... Et on célèbre la messe à la chapelle du Marcado, où il y a encore une chapelle qui a été construite avec l'abbé Pranière dans les années 60 ou 50-60. Il y a la messe à 18h. Ensuite, il y a le dîner au refuge ou le pique-nique pour tout le monde. Et on se retrouve à 20h30 pour une veillée. Alors autrefois, quand on pouvait faire du feu, quand on pouvait faire, etc., il y avait un grand feu devant le refuge du Marcado, et c'était une veillée. Genre veillée scout, mais une veillée avec des chants français, des chants espagnols, c'est chacun tantôt l'un, tantôt l'autre. Oui. Et puis ça se terminait toujours par une célébration à la chapelle. Maintenant, on reste au refuge, on ne peut plus faire de feu, on est tout à fait bien accueillis par les gardiens du refuge, etc. Mais alors, il y a la veillée profane qui se termine par une prière religieuse. Voilà. Hein, avec nos amis espagnols et ces bons enfants.
Ça, c'est pour la journée du 4 août. Alors, par contre, on n'a pas précisé, mais peut-être que c'est quand même bien de le dire pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, c'est que ce refuge du Marcado, il se situe où exactement et combien de temps il faut marcher déjà pour accéder à ce refuge le premier jour?
Alors, le refuge du Marcado se retrouve au fond de la vallée du Marcado. C'est le refuge Vallon qui vient d'être refait, qui a été inauguré il y a 2 ans. Et donc, on coterait le pont d'Espagne. On laisse la bagnole au parking du pont d'Espagne et vous en avez pour 2 heures pour aller au refuge. Si vous marchez correctement, si vous marchez lentement, c'est un peu plus. Si vous marchez plus vite, c'est bien sûr un peu moins.
Voilà, avec un petit peu de dénivelé quand même, déjà, rien que pour arriver au refuge.
Oui. Surtout que ce qui est dommage, c'est qu'il y a beau, on traverse le plateau de Caillan, il est tout plat. Alors on met autant de temps à l'aller qu'au retour. Mais enfin, à part ça, donc 2 heures, il faut être honnête, donc 2 heures pour le refuge. Là, on se repose.
Enfin, là, on se repose, on se retrouve, on chante, on prie pour ceux qui le souhaitent. Et la montée, c'est le lendemain.
Alors la montée, c'est le lendemain. Pour ceux qui marchent correctement, ils peuvent partir. Il faut 2 heures pour aller au col. Comme toujours, il y a ceux qui marchent bien qui peuvent mettre moins, ceux qui marchent moins bien qui en mettent plus. Alors, en fonction de leur capacité, il y en a qui partent vers 6h, d'autres vers 6h30, d'autres vers 7h, et on se retrouve tous à 9h30 au col. Alors, autrefois, on bénissait les cordes, on bénissait les piolets, il n'y avait pas de bâtons autrefois, c'était vraiment des choses sérieuses. Maintenant, c'est des bâtons, mais enfin, bon. Il y a encore quelques cordes, 1 ou 2 piolets, et voilà.
Et alors, en plus de cette bénédiction, la messe est célébrée, là-haut?
Et alors, s'il fait beau, il n'y a que la bénédiction des bâtons au col, et s'il fait beau, on monte, et la messe a lieu au sommet, donc à 3000 mètres. Et s'il pleut, on reste au col, et tout est fait au col, parce qu'on ne va pas s'amuser à glisser, à faire des... Voilà.
Alors honnêtement, Abbé Antoine Mérillon, pour arriver jusqu'en haut, 3006 mètres d'altitude, en haut de ce sommet de la Fâche, faut quand même être un montagnard aguerri. Tout le monde ne peut pas le faire. Ça explique peut-être qu'il n'y ait pas autant de monde que vous aimeriez.
Aguerri, non. Il faut avoir peur du vide, parce que c'est pas difficile. Mais vous savez bien que les Pyrénées, c'est des montagnes anciennes, et donc la crête, il y a beaucoup de. Il faudrait rester sur la crête, ou alors c'est du bon rocher, mais enfin c'est des tas de cailloux les uns sur les autres. Donc il faut faire attention. Mais de temps en temps, il faut passer à droite ou à gauche. Et là, c'est pas des éboulis, mais c'est plutôt des. Et donc il faut pas balancer des cailloux sur les petits camarades. Et comme on est quelques-uns à être partis du col pour monter au sommet et la messe, c'est là où il faut faire vraiment attention.
Et là-haut, c'est vous qui célébrez la messe.
Et alors là-haut, si on y arrive, voilà, il y a notre prêtre espagnol. Des fois, il y a d'autres prêtres espagnols et peut-être des fois aussi des prêtres français. Mais ces dernières années, on était plutôt deux prêtres espagnols et un prêtre français.
Alors, pourquoi vous êtes fidèle à ce rendez-vous? Quelle joie, quel plaisir vous avez à faire cet effort-là jusqu'au sommet? Pourquoi c'est un rendez-vous auquel vous êtes si fidèle?
Pour maintenir l'esprit de ce pèlerinage qui a été fondé par ses amis. Et je trouve ce qui était dommage, c'est qu'ils n'ont pas su transmettre. Et alors, ici, il y a le dernier des Mohicans qui était un jeune, enfin, maintenant qui est à la soixantaine sonnée, et qui est médecin à Rouen, et qui est un bon montagnard, Et donc, qui vient tous les ans, mais rien que pour, le pèlerinage. Et alors, c'est tous les deux qu'on essaie de maintenir. Alors, il y a des fidèles qui viennent à peu près tous les ans, mais maintenant, français, ça, si on est 20, c'est formidable. Mmh. Et côté espagnol, c'est souvent assez plus.
Alors, puisque nous sommes là, il y a une autre question qui me titille un petit peu. Vous avez sans doute entendu parler de cette croix au sommet du pic de l'Aneto, posée, volée, remise, enlevée, balancée. Est-ce qu'au sommet de la Fâche, il y a une croix, une statue, un signe tel que celui-ci?
Nous avons le même problème qu'à l'Aneto.
En haut du sommet de la Fâche.
Au sommet de la Fâche, il y a une mangeoire, donc il y a une niche, et il y avait une Sainte Vierge. Et dans les premières années, moi, j'ai fait ma première fâche en 1967. Et puis après, il y a eu les arrêts, les études, etc. Puis on a repris à peu près fidèlement quand je suis revenu prêtre au diocèse. Et donc, il y avait une vierge, elle se faisait, j'allais dire, démolir tout le temps. Et alors, il y a une vierge qu'on appelle Notre-Dame de la Fâche. On laisse la niche vide. Et on monte cette Vierge tous les ans pour célébrer la Fâche, etc. Et on l'appelle Notre-Dame de la Fâche et elle dort à la chapelle du Mercado. Mais il y a deux ans, pour vous montrer encore, il y a deux ans, des jeunes qui partaient pour les JMJ au Portugal sont passés par la Fâche. Ils ont laissé leur bus à Reims. Ils ont monté jusqu'au col de Pierrefitte, ils ont tourné à gauche par le col de Camalès, ils sont arrivés au Mercado, et du Mercado, ils sont remontés au col de la Fâche, et ils sont montés par stick de 50, je crois, enfin, dans la journée, je ne sais pas comment ils ont fait, mais enfin, ils avaient mis, scellé une magnifique statue de la Vierge Marie, là j'ai des photos, et tout, et donc... c'était bien sûr avant le 5 août, quand nous avons fait notre pèlerinage le 5 août, elle était là, etc. L'année suivante, elle était encore, je crois, à peu près là. Et puis l'année dernière, il n'y avait plus personne. Il restait la tige de la pauvre statue, qui était bien scellée, et la niche remplie de cailloux. Voilà.
Et pourquoi, d'après vous, pourquoi les gens font ça?
Alors là, je ne sais pas. La bêtise. Ah non, on voudrait bien comprendre. Non.
En tous les cas, vous montrez avec la statue de la Sainte Vierge qui vous attend à la chapelle du Mercado, comme tous les ans, et puis vous la montrez en haut du sommet.
Et alors voilà, c'est les gens courageux qui se la passent, c'est comme... Et sur l'affiche de cette année, vous verrez, elle est sur le dos de notre docteur Rouanet, et qui redescend avec, et donc voilà, elle monte, elle redescend.
Voilà, alors on arrive au terme de cet entretien, Abbé Antoine Mérillon. Pour terminer, peut-être deux choses. D'abord, la question logistique, comment on fait pour participer? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Vous avez dit que chacun venait individuellement, mais est-ce qu'il faut quand même prévenir qu'on va venir? Les petits conseils que vous pourriez donner. Ensuite, peut-être, vous pourriez terminer en donnant une bonne raison pour motiver les gens qui hésitent un petit peu. Alors d'abord, les infos pratiques.
Alors, les infos pratiques, ceux qui veulent dormir au refuge, ça doit être un peu trop tard, parce que il faut s'inscrire. Or, il y a 120 places, en gros, 120 places, et souvent, c'est retenu pour le mois d'août par des gens qui ne sont pas trop montagnards ou qui sont montagnards, mais qui retiennent. Mais enfin, toujours essayer.
Enfin, on peut aller sur Internet, sur Refuge du Mercado, voilà, et il y a toutes les coordonnées pour téléphoner et peut-être qu'il y a de la place.
Et sinon, pour dormir, il y a un lieu pour camper, il y a un lieu de bivouac, tout à fait, qui est prévu. Et surtout, là aussi, une dernière chose, enfin, c'est un détail. On fait toujours mémoire des péris en montagne de l'année. C'est pas rigolo, mais on fait mémoire. Donc, côté français, côté espagnol. Et aussi, il y a beaucoup quelques personnes, ou quelques jeunes, ou moins jeunes, qui font leur premier 3000. Alors, on les baptise. Voilà.
C'est pas rien de faire un 3000. Ah, voilà. Oui. Alors,
monter n'est rien, mais il faut redescendre.
Ah oui, c'est plus difficile de descendre.
Toujours.
Bon, je le saurai si j'y vais. Allez, on se quitte à bientôt de Mérillon. On vous souhaite bon préparatif, parce que vous serez fidèle au rendez-vous comme tous les ans.
Avec la grâce de Dieu.
Avec la grâce de Dieu, évidemment. Et puis, on encourage ceux qui le veulent, ceux qui se sentent en forme, à venir.
C'est en famille, c'est simple, et il faut apporter sa bonne humeur et sa foi. Et, ou au contraire, vous pouvez trouver la foi en venant prier avec nous.
beaucoup.
Avec plaisir.
Voilà, belle proposition. Donc, ce pèlerinage de la Fâche. Merci donc à André Jankovic qui a réalisé cet entretien. On va rester dans les Pyrénées, justement. On va rester en altitude. Et cette fois-ci, c'est Anne Lasserre qui nous rejoint pour le regard des écrivains sur les Pyrénées. Dans précisément un quart d'heure, l'actualité sera de retour. L'actualité nationale et internationale avec la rédaction française de Radio Vatican. Bon appétit.
Présence à Aurignac, 94.1.
Bonjour Anne Lasserre.
Bonjour Philippe.
Voilà, comme chaque semaine, tranquillement installé dans le studio de Radio Présence. J'aime bien cette chronique parce qu'on apprend des choses, on voyage pas mal avec vous. Et puis bon, il suffit de fermer les yeux, d'écouter votre voix. Et là, on est vraiment parti. On pense à toutes ces personnes qui malheureusement ne peuvent plus parce que 3G, parce que voilà, peut-être malades, et qui nous écoutent. Et je sais que c'est leur moment de récréation. On apprend des choses, on voyage, on imagine des paysages grâce à votre belle voix. Hein.
Merci Philippe.
Alors aujourd'hui, nous partons tout à fait à l'est de la chaîne des Pyrénées pour une destination surprenante, une gare. Ah, une gare, mais pas n'importe quelle gare, celle de la Tour de Carole qui se situe à proximité de la frontière.
En effet, parce que dans leur ouvrage « Passage, les Pyrénées du nord au sud et réciproquement », Marie Bruno et Bertrand Grenier ne se contentent pas d'évoquer des cols, des sommets, des vallées, Philippe. Il consacre aussi un chapitre à la gare de la Tour de Carole et le chapitre a un titre plein d'humour. Ici, le passage est à niveau.
Oui, le niveau des Pyrénées, oui. Et oui. C'est un livre original, abondamment illustré, écrit en marchant. Comme le disent les deux auteurs, ce livre a été couronné par le prix Pyrénées-Biranos en 2015, je crois, hein, c'est ça?
Oui, je crois que c'est en 2015, hein. Et les auteurs, donc, s'intéressent à différents lieux de passage, d'un versant à l'autre. Et plus qu'à un guide, cet ouvrage ressemble à un récit de voyage où se mêlent histoire, poésie, géographie, aventure humaine, etc.
Alors, vous avez choisi de nous parler de la gare de la Tour de Carole, car on a entrepris des travaux considérables pour permettre au train de franchir les Pyrénées, mais un écart de 23 cm entre les voies ferrées françaises et les voies ferrées espagnoles a freiné le développement du trafic ferroviaire. On vous écoute.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Lire Passage, les Pyrénées du nord au sud, c'est parcourir les Pyrénées d'ouest en est avec Marie Bruno et Bertrand Grenier. C'est emprunter avec eux les sentiers qui relient le versant nord des Pyrénées au versant sud. C'est gravir les cols du Pays Basque ou le col de la Pierre Saint-Martin, aller à la Brèche de Roland, au port de Vénasque ou encore dans les Pyrénées orientales, à la gare de la Tour de Carole où nous les accompagnons aujourd'hui. Été 2007. Nous cherchions ce matin, en descendant sac au dos, entre pinèdes et prairies sèches, à retrouver dans notre mémoire les paroles de cette longue chanson de Brigitte Fontaine. « Monsieur le chef de gare de la Tour de Carole, vous étiez très pâle à 7h du matin. Vous aviez les paupières froissées, et ça n'avait d'importance pour personne au monde, ce qui est une chose horrible et normale. Moi, j'étais descendu 4 stations avant et je ne vous verrai jamais. La Cerdagne est à nos pieds, champs fraîchement moissonnés, prés encore étonnamment verts, grappes de villages, semis de hameaux dispersés. Ici, ce doit être Puycerda. Et ce grand bâtiment là-bas, c'est la gare de la Tour de Carole. Il fait très chaud sur le chemin pierreux qui descend à Gils de Cerdania. Maisons imposantes, murs de pierre noire et toits d'ardoise. Par quelques portails entrouverts, on aperçoit des gazons dignes de vrais jardins anglais. Nous quittons ici le GR11 pour allier cette étrange gare internationale, installée au milieu de nulle part, où nous espérons un train pour allier Toulouse. Passé le village de la Tour de Carole, un enchevêtrement impressionnant de pylônes et de caténaires annonce la gare. architecture ferroviaire du premier quart du XXe siècle, stricte géométrie des bâtiments tout en longueur le long des voies. Parking étonnamment désert. Entrons. Le point presse est fermé. Personne derrière le guichet. Mais il est où le chef de gare ? Les fiches horaires et les dépliants publicitaires sont là, bien rangés dans leur présentoir. Tout semble pourtant abandonné. Toutes portes ouvertes. Même impression du côté des voies. Vraiment personne ? Le temps paraît s'être figé. On croirait que la vie s'est arrêtée. Si ce n'était cette odeur tenace, caractéristique, qui imprègne les lieux en profondeur, mélange de graisse rance et de câbles électriques surchauffés. Et ce bourdonnement continu comme si quelque puissante machinerie tournait au ralenti. Vaguement inquiétant. Sous le vent d'une voie démesurément longue, d'autres détails nous apparaissent, révélant progressivement une sorte de vaste décor, dressé probablement pour les besoins de quelques films à gros budget. Nous voilà transportés dans les années de l'après-guerre froide. George Smiley, le héros de John le Carré, a probablement rendez-vous ici avec un correspondant venu lui remettre en main propre une certaine valise de documents. Et ce décor est particulièrement convaincant. Quais usés par les ans, chariots à bagages échoués au milieu d'herbes folles, fenêtres murées, tags dans le goût des 70s, jusqu'aux technologies ferroviaires qui semblent d'un autre âge. Tiens, voilà les figurants. Cet homme qui entreprend d'installer la terrasse du bistrot de la gare. Quel client espère-t-il ? Et l'élégante valise rose de cette jeune femme brune, n'est-elle pas trop lourde ? Ou trop rose ? Ces deux amoureux enlacés qui sommeillent sur un banc, dans l'attente de quelle improbable correspondance ? Et nous ? Que faisons-nous là ? Et quel est notre rôle dans cette mise en scène dont nous ignorons tout ? Ding dong dong ! Une sonnerie retentit, amplifiée en écho tout au long des voies désertes. Le train numéro 146-788 en provenance de Barcelone va entrer en gare voie A. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai, s'il vous plaît. L'annonce sonore, parfaitement conforme aux normes SNCF, entendue maintes fois sur d'autres quais, dans d'autres gares, nous tire brutalement de notre rêverie. Le chef de gare de la Tour de Carole fait une brève apparition. C'est une jeune femme qui porte uniforme, casquette et sifflet. Et voici qu'apparaît le train, orange, avec un R comme RENFE, la Société Nationale d'Exploitation des Chemins de Fer Espagnols, peint en blanc sur son nez. Il stoppe au terminus de sa voie, à moins d'un mètre de la barrière qui la borne. Et voilà des voyageurs, encombrés de bagages comme il se doit. Valises à roulettes pour les uns, lourds sacs à dos pour les autres, parfois les deux. Ici commencent les vacances, ici commence la montagne. Ils traversent les voies à niveau. De ce côté-ci, un panneau indicateur annonce l'Espagne, quai 2, voie A, en sens inverse de leur passage. Les voici donc arrivés en France. Bientôt, un nouveau train s'annonce. C'est un TER, train express régional, affrété par la région Midi-Pyrénées en provenance de Toulouse. Il stoppe et livre à son tour son lot de voyageurs, dont certains prendront sans doute le chemin de l'Espagne, quai 2, voie A. Ainsi donc, quelques trains se donnent rendez-vous à la gare de la Tour de Carole en Vecht pour permettre à ceux qui les empruntent de passer de France en Espagne en traversant d'un quai à l'autre une ligne virtuelle symbolisée ici par ce passage à niveau à quelques centaines de mètres du tracé officiel de la frontière. Mais pourquoi changer de train ? 23 cm. C'est la différence entre les écartements des rails français, 1m43 et espagnol, 1m66. Les trains qui viennent de France ne peuvent donc pas rouler au-delà de la frontière et inversement. Une petite différence de 23 cm seulement, et voici que la frontière entre la France et l'Espagne s'impose là où on ne l'attendrait pas. En Europe, l'écartement des rails est le même, sauf en Espagne et en Russie. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage écrit par Marie Bruno et Bertrand Grenier, ouvrage intitulé « Passage, les Pyrénées du Nord au Sud et réciproquement » et publié par les éditions Kern en 2014.
Et voilà, Anne, comment 23 cm de différence pour rendre plus difficile des liaisons ferroviaires entre l'Espagne et la France ? Était-ce pour se préserver contre tout risque d'invasion que, dans les années 1850, l'Espagne a opté pour un écartement différent ?
On peut se le demander, hein, Philippe. En tout cas, il est vrai que la présence des armées napoléoniennes en Espagne était encore dans toutes les mémoires dans les années 1850.
En tout cas, même si les frontières ont, en principe, aujourd'hui, disparu, elles existent toujours pour les trains français et espagnols, puisque cet écart ne s'est jamais réduit.
La preuve, oui. Mais elles n'existent pas pour les marcheurs. Et ce livre nous invite à parcourir, comme le font Marie Bruno et Bertrand Grenier, les passages qui relient la France à l'Espagne.
Il nous y invite d'autant plus qu'en lisant ce livre, nous ressentons à quel point les auteurs aiment les Pyrénées, la beauté sauvage de ces montagnes.
Voilà. Oui, on le sent vraiment dans ce livre, Philippe. Vous avez raison.
La semaine prochaine, nous irons dans les Pyrénées. Alors, on part de l'Est, on ira complètement à l'Ouest, puisque nous partirons dans les Pyrénées.
En voyage.
À Oloron-Sainte-Marie, avec le poète Jules Supervielle.
Supervielle, oui, qui est d'ailleurs enterré à Oloron-Sainte-Marie.
Eh bien, écoutez, ce sera notre prochaine destination. Merci beaucoup, Anne Lasserre. Et puis, on vous souhaite le meilleur pour cette semaine. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Je t'emmène où les étoiles entrent.
Bagnères de Luchon, 94 FM.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Troisième et dernière étape du voyage apostolique du pape en Espagne, Léon XIV.